Formation biblique de disciples. Cours numéro 13, la prière. Section 4, le combat spirituel. Première partie, confrontation de deux royaumes. Petit 1, l'Église, une armée engagée dans un combat. Nous avons vu que le Nouveau Testament utilise un certain nombre de termes pour représenter le peuple de Dieu. Par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, le peuple de Dieu est décrit comme une assemblée législative, une famille, un temple et comme l'épouse de Christ. Or, la dernière image que nous trouvons est celle d'une armée. Petit a, un combat colossal. Cette armée est engagée dans un combat aux proportions planétaires, touchant et impliquant chaque partie de la planète Terre sur laquelle nous vivons. En fait, c'est un combat qui n'englobe pas seulement la terre, mais aussi les cieux. Le passage de la Bible qui présente le plus clairement ce conflit et en décrit sa nature est celui d'Éphésiens 6, versets 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les œuvres du diable. Au verset 12, Paul donne plus de détails quant à la nature de ce conflit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Petit b, entre le royaume bien organisé de Satan. Il est donc évident que nous, chrétiens, sommes engagés dans un conflit colossal dépassant notre compréhension. Ces principautés, dominateurs et esprits du mal dans les lieux célestes, sont des dirigeants de divers territoires établis par ordre décroissant d'autorité. Ceci dépeint donc un royaume hautement structuré et bien organisé, avec des ordres décroissants d'autorité, responsables de différentes parties d'un territoire. Dans ce verset 12, remarquons ceci. Le conflit concerne tous les chrétiens et pas seulement les responsables. Nous sommes dans une partie de lutte, mais pas contre la chair et le sang. La lutte est le genre de combat le plus intense où toutes les techniques et la ruse sont à utiliser pour gagner. C'est un combat total. Satan est à la tête d'un royaume bien organisé, dont le quartier général se trouve dans les lieux célestes. Cela paraît surprenant, mais c'est confirmé par Jésus lui-même dans Matthieu 12, versets 25 et 26. Tout royaume divisé contre lui-même est détruit, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Lorsqu'il répond aux pharisiens qu'il accuse de chasser les démons par Belzébul, ce qui signifie maître des mouches. Voir 2 rois 1 verset 2, Baal-Zéboub, dieu d'Écron. Nous pouvons en conclure que Satan a effectivement un royaume bien organisé et qu'il n'a pas encore été renversé complètement. Petit c, et le royaume de Dieu en qui est la victoire grâce à son autorité. Jésus continue dans Matthieu 12 verset 27 et 28. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Jésus parle ici d'un autre royaume, celui de Dieu. Il décrit la possibilité d'un conflit au grand jour entre ces deux royaumes. Il dit que nous savons que le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à nous puisqu'il chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Le sous-entendu est que le ministère de la délivrance démoniaque fait sortir au grand jour les forces de Satan et démontre la supériorité du royaume de Dieu, car c'est par l'autorité de ce royaume que les démons sont chassés. Il y a donc deux royaumes en opposition, le royaume de Dieu et celui de Satan. Ces deux royaumes sont engagés dans un combat mortel qui atteint son apogée alors que nous nous approchons du retour de Jésus. Paul affirme ceci dans Colossiens 1, versets 12 à 14. « Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Petit 2, le quartier général de Satan. Petit A, pas devant le trône divin. D'après Job 1, versets 6 et 7, un jour les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Satan, à l'époque de Job, avait le droit de se présenter devant le trône de Dieu. Or, nous savons qu'il est l'accusateur de nos frères, comme il est cité dans Apocalypse 12, verset 10. Alors j'entendais dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » La question est de savoir s'il a toujours le droit de se tenir devant le trône de Dieu. Je ne le pense pas, depuis l'œuvre de la croix qui a mis Jésus à la droite du Père comme médiateur en notre faveur. Voir le verset précédemment cité. Cependant, la parole de Dieu dit expressément que Satan est notre accusateur et qu'il le reste jusqu'à ce que Jésus revienne sur terre. Apocalypse 12, versets 11 et 12. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Où se trouve donc son quartier général? Petit b, au deuxième ciel. Dans Genèse 1, verset 1, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Notez qu'à la première mention du ciel, celui-ci est au pluriel. C'est la même chose dans 2 Chroniques 2, verset 5a, où il est question des cieux des cieux. Il y a donc un ciel ou des cieux qui sont au-dessus du ciel. Dans 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4, Paul dit « est encore plus clair ». Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Qui sont ces trois cieux? Le premier est le ciel cosmique, et le troisième, d'après le verset cité, est la demeure de Dieu, le paradis. C'est là que Paul a été ravi, et qu'il a entendu Dieu prononcer des paroles ineffables. Le deuxième ciel, qui est un ciel intermédiaire, se trouverait de toute évidence entre le premier et le troisième ciel. C'est dans ce ciel intermédiaire que se trouverait le quartier général de Satan. Or, nous ne réalisons pas toujours combien il est difficile de passer à travers cette opposition du second ciel pour atteindre le trône de Dieu au troisième ciel. Nous pouvons demander quelque chose au Seigneur qui est dans sa volonté. Nous croyons qu'il entend, mais la réponse tarde. Pour des chrétiens authentiques et engagés, une des principales raisons, il peut y en avoir d'autres, est que nous sommes impliqués dans une guerre et que le quartier général de Satan se situe entre le ciel visible et le ciel de Dieu. La difficulté de l'ange de Dieu envoyé auprès de Daniel, au chapitre 10 du livre de Daniel, à accomplir sa mission, atteste également l'existence du deuxième ciel et la bataille engagée entre les anges. Petit 3, deuxième ciel et bataille d'anges. Dans le livre de Daniel, il est question du monde spirituel et des conséquences que nos prières peuvent entraîner dans le monde spirituel. Au chapitre 10, Daniel nous explique comment il s'est mis à prier et à rechercher Dieu pour une révélation concernant l'avenir de son peuple Israël. Pendant 3 semaines, il s'est profondément consacré à la prière et à chercher Dieu. Au bout de ce temps, un puissant ange glorieux venu du ciel lui a apporté la réponse rapportée aux versets 12 et 13. Et il me dit, « Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Il a donc fallu 21 jours d'intercession intense, malgré la réponse immédiate de Dieu, parce que lorsque l'ange de Dieu a traversé le royaume de Satan pour aller sur terre, les anges de Satan se sont opposés à lui pour l'empêcher de porter le message à Daniel. En effet, le verset 13 poursuit: Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Or tout cela s'est déroulé dans le monde spirituel, dans le monde céleste. Au sujet de l'archange Michel, nous lisons dans Daniel 12, verset 1: En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Grand chef peut s'interpréter par archange. Lorsque l'ange de Dieu a eu des difficultés pour apporter son message, l'archange Michel, qui veille sur les enfants d'Israël, est intervenu. Comprenons que sous le chef de Perse, qui est une des grandes principautés sataniques dominant l'empire perse sur terre, il y a divers rois et chefs subalternes, ayant différents secteurs d'autorité au ciel, mais dominant sur terre. Il pourrait par exemple y avoir un roi pour chaque ville sur terre. Dans le monde spirituel, il y a aussi des villes sataniques qui copient ce qui est sur terre, car il n'est donné qu'à Dieu et les hommes de créer. Un autre pour chaque groupe ethnique, peut-être un roi pour chacun des diverses religions et cultes païens de l'Empire perse. Nous avons ainsi l'image d'un royaume hautement structuré et bien organisé, avec différents secteurs et des niveaux décroissants d'autorité, avec son quartier général dans le monde spirituel et peuplé d'êtres spirituels rebelles et déchus. Dans Daniel 10, verset 20a, nous en apprenons davantage au sujet de ce monde spirituel. Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Autrement dit, la lutte contre l'ange satanique dominant l'empire perse, il n'était pas encore achevé. Le combat céleste devait se poursuivre entre l'ange de la principauté spirituelle représentée par le chef de la Perse. L'ange poursuit dans Daniel 10, verset 20: Et quand je partirai, voici que le chef de Yavan, c'est la Grèce, c'est une autre principauté spirituelle, viendra. Cela signifie que la victoire sur le chef de l'Empire perse sera suivi par l'essor de l'Empire grec avec son propre ange maléfique, le chef de Grèce. Au verset 21, l'ange qui parle dit: Personne ne m'aide contre cela, excepté Michel, votre chef. Nous voyons qu'en tant que protecteur d'Israël, Michel était celui qui, du royaume de Dieu, devait intervenir. Pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, il fallait donc l'union du messager angélique avec l'archange Michel et peut-être son armée. Pourquoi la mention de la Perse et de la Grèce? Il y avait depuis environ le 5e siècle avant Jésus-Christ, quatre principaux empires qui se sont succédés pour dominer Israël et la ville de Jérusalem. Il s'agit de Babylone, de la Perse, de la Grèce et de Rome. À l'époque, il était donné à la Perse puis à la Grèce de dominer sur Israël et sur le monde. Ces passages nous montrent que la bataille spirituelle fait rage autour du peuple de Dieu, car la volonté de ce prince de Perse est de s'opposer à lui. Je crois que cela est toujours vrai aujourd'hui. Partout où se trouve le peuple de Dieu et où sa volonté se réalise, c'est là que la bataille spirituelle est la plus intense. Nous le voyons aujourd'hui avec tout ce qui touche Israël. Le résultat de la prière de Daniel est stupéfiant. Tout le ciel, que ce soit les anges de Dieu ou ceux de Satan, s'est mis en mouvement. Cela nous donne un formidable aperçu de ce que la prière peut faire. Nous constatons aussi que les anges de Dieu semblaient avoir besoin de l'assistance des prières de Daniel pour pouvoir achever leur mission. Cela nous montre l'efficacité de la prière. Petit 4, armes et champs de bataille. Nous devons maintenant nous demander quelles sont les armes dont les chrétiens ont besoin pour entrer dans le combat spirituel, puis connaître le champ de bataille où se livre le combat. Ces deux aspects sont donnés dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Petit a, les armes à employer. Paul dit que nous vivons dans la chair et que nous sommes engagés dans un combat, mais celui-ci n'est pas dans le domaine charnel. Si nos armes étaient charnelles, nous aurions besoin d'armes, de chars et de bombes, mais parce que le combat est spirituel, les armes doivent aussi être spirituelles. Elles conviennent au combat et nous avons affaire à des forteresses. Petit b, champ de bataille, nos raisonnements. Il est capital que nous comprenions où la bataille se déroule. En parlant du champ de bataille et de nos objectifs, Paul utilise différents termes. Remarquez que les raisonnements, ou l'imagination selon la traduction, font référence au domaine de la pensée. Il est très important de comprendre que le champ de bataille se situe dans le domaine de la pensée. Soyons conscients que Satan livre une guerre totale afin de captiver les pensées de tout être humain. Il bâtit de façon délibérée et systématique des bastions et des forteresses, mais il est de notre responsabilité, en tant que représentants de Dieu, de briser ces forteresses avec nos armes spirituelles, de libérer les pensées d'hommes et de femmes pour qu'elles soient amenées à la captivité de l'obéissance à Christ. Cette mission est énorme. Petit c, un symptôme de forteresse, les préjugés et les idées reçues. Ces forteresses et ces bastions résistent à la vérité de l'Évangile et de la parole de Dieu, empêchant les personnes d'être capables de recevoir le message de l'Évangile. De quel genre de forteresse parle la Bible? Les préjugés et les idées préconçues. Avoir un préjugé, c'est avoir une idée préconçue. Et rabaissons ce que nous connaissons mal, et rabaisser ce que nous connaissons mal. Autrement dit, si vous ne connaissez pas un certain sujet, mais que vous en avez déjà des idées précises, elles seront certainement mauvaises. Encore si vous êtes le seul à les penser, mais si vous êtes plusieurs, ces idées peuvent être dangereuses. Ceci est tellement vrai des gens religieux. Ils considèrent avec crainte et soupçon presque tout ce qu'ils ne connaissent pas. Lorsqu'une personne a une opinion faite à l'avance, les faits, les preuves et le raisonnement ne peuvent rien y changer. Seules les armes spirituelles peuvent briser ces forteresses. Les gens sont poussés et dominés par leurs préjugés et idées préconçues, parfois jusqu'à leur propre destruction. Les sectes religieuses, les idéologies politiques et les préjugés raciaux constituent d'autres exemples d'idées préconçues s'emparant du raisonnement des gens. Nous trouvons souvent ces préjugés parmi les chrétiens. Par exemple, en France, on se considère tous comme étant intelligents, ouverts aux autres et généreux. Aussi, au nom d'une justice égalitaire, qui est elle-même une forteresse, il est interdit d'interdire. Il y a là une puissante forteresse basée sur l'idée fausse que l'homme est bon. Seule la société et ses exploitations ont pu pervertir l'homme. Toute forme d'interdiction est interprétée comme une forme d'intolérance, de refus de l'autre, de refus du progrès. Cette forteresse, partagée par tout un peuple, peut être très dangereuse et amener notre pays à la ruine. C'est ce que Paul écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Conclusion, une forteresse est un préjugé qui aveugle la pensée des gens, de sorte que la lumière de l'Évangile ne peut les éclairer. Lorsqu'une personne est dans cet état, cela ne sert à rien de raisonner avec elle. Plus on en discute, plus elle affirme son erreur. La seule façon de délivrer ces gens est d'utiliser nos armes spirituelles et de briser les forteresses de leurs pensées. Ces forteresses peuvent aussi provenir de blessures non pardonnées. Deuxième partie, les armes défensives. Petit 1, le fondement de notre victoire, la victoire du Christ. Pour être assurés de la victoire dans notre combat spirituel, nous devons comprendre ce que Jésus a accompli à la croix. Écoutons Paul dans Colossiens 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Saisissons bien ceci et ne l'oublions jamais. Christ a déjà vaincu Satan ainsi que les principautés et tous les pouvoirs du mal de façon complète et radicale. Christ les a vaincus au travers de sa mort à la croix, de son sang versé et de sa résurrection triomphante. Petit a, victoire contre la culpabilité. Or nous savons que l'accusateur des frères c'est Satan, et son âme principale est la culpabilité. Tant que Satan est à même de maintenir notre sentiment de culpabilité, nous ne pouvons pas le vaincre. La culpabilité est la cause de notre défaite, et la justice est le secret de notre victoire. Au travers de la croix, Dieu a résolu le problème de la culpabilité, tant du passé que de l'avenir. Il a pris les dispositions nécessaires envers le passé comme l'avenir. Comment a-t-il fait cela? Colossiens 2, verset 13 dit « Il nous a rendus à la vie, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi de Moïse, car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. » Romains 10, verset 4. Petit b, grâce à la justification. Christ n'est pas la fin de la loi comme parole de Dieu, ou de la loi comme partie de l'histoire d'Israël, ou de la loi d'une autre façon. Il est la fin de la loi comme moyen de justification devant Dieu. Nous ne sommes pas tenus d'observer la loi afin d'être justes. En vainquant notre ennemi à la croix, Jésus a remporté la victoire. Il a désarmé Satan, l'a dépouillé et l'a donné en spectacle pour nous. Mais il est de notre responsabilité de démontrer et d'administrer la victoire de Jésus. 2 Corinthiens 2, verset 14. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Ainsi Christ a fait en sorte que la victoire soit possible. Petit 2, l'armure du chrétien. Cependant, il n'y a rien dans la Bible qui suggère que nous, chrétiens, nous échappions aux mauvais jours et aux épreuves de la vie. Nous n'échappons pas aux mauvais jours, aussi faut-il nous y préparer. C'est pourquoi dans Éphésiens 6, versets 10 à 20, Paul utilise l'équipement du légionnaire romain pour nous exhorter à revêtir l'armure complète de Dieu qui est notre arme défensive. Petit a, la ceinture de la vérité. Il s'agit de la vérité dans la vie de tous les jours. L'honnêteté, la transparence, la franchise, la sincérité. Petit b, la cuirasse de justice. Voir 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres et enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Et Philippiens 3, verset 8 et 9. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Le deuxième élément de l'armure est la cuirasse de la foi et de l'amour. Elle protège le cœur. Il s'agit de la justice de Christ qui vient de Dieu et qui est obtenue par la foi. Cette foi qui ici est active et n'agit qu'au travers de l'amour parce qu'elle nous met à l'abri de l'amertume et du découragement. Voir Galates 5, verset 6. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Sinon, en nous défendant par notre propre justice, Satan peut atteindre notre cœur et nous blesser. Petit C, les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Il faut les garder nuit et jour pour être prêt. La clé ici est la disponibilité et la mobilité pour être prêt à faire quelque chose au moment où Dieu vous le demande. Cette disposition comprend l'étude de la parole, l'intimité avec Dieu, la recherche de l'onction, afin de manifester la paix intérieure. Matthieu 10, versets 12 à 14. En entrant dans la maison, saluez ses habitants, et s'ils en sont dignes, que votre paix vienne sur eux. Mais s'ils n'en sont pas dignes, que votre paix revienne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Petit D, le bouclier de la foi. Il a la forme d'une porte, forme de tous les boucliers romains. Le bouclier de la foi est très utile lorsque nous allons au combat, par exemple pour délivrer quelqu'un des chaînes de l'ennemi. Il nous faut un bouclier assez grand pour protéger tout ce que Dieu vous a confié. La moindre partie exposée sera attaquée. Invoquons la puissance du nom de Jésus et son sang précieux, non seulement sur nous, mais sur tous ceux qui nous sont très proches, car l'ennemi ne nous fera pas de cadeau. Ici, il ne s'agit pas de la foi dans notre propre justification, mais de la foi pour notre protection et ceux qui nous sont proches. N'oublions jamais d'étendre notre bouclier lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi. Petit E, le casque du salut. Puisque le champ de bataille où se livre toute cette guerre spirituelle est le domaine de l'esprit de l'homme, il est évident qu'il s'agit de protéger nos pensées. Il nous faut ce casque du salut tous les jours. Nous ne pouvons être sauvés sans le porter. Cela nous expose à toutes sortes d'attaques, dont la dépression et les pensées négatives. 1 Thessaloniciens 5, verset 8 nous parle du casque de l'espérance du salut. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Or la foi biblique est la cuirasse qui protège le cœur, et l'espérance est la protection de la pensée. Il faut voir le lien entre la foi et l'espérance. Hébreux 11, verset 1 « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Lorsque notre foi est fondée, notre espérance l'est aussi. Nous pouvons donc bâtir une espérance solide, constituant une protection pour nos pensées. L'espérance est une attente calme et ferme, basée sur les promesses de la parole de Dieu. L'espérance est une attitude optimiste qui choisit toujours de voir ce qui est meilleur et ne cède pas à la dépression, au doute, à l'apitoiement de soi ou encore à la fuite des pensées. Rappelons-nous ce qui est écrit dans Romains 8, versets 24 et 28. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et dans Colossiens 1, verset 27, « En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. » L'espérance est comme une ancre qui se plante dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Nous sommes dans ce monde comme un petit navire sur la mer. Tout change, passe, tout est en mouvement, mais notre espérance est une ancre plantée dans l'éternité, dans le rocher éternel. Hébreux 10, verset 23, « Confessons notre espérance sans fléchir. » C'est la protection de nos pensées. Petit F, l'épée de l'esprit. C'est la seule arme offensive. L'épée est appelée « parole de Dieu ». Et elle pénètre toutes les parties de la personnalité humaine. Dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » Dans Apocalypse 1, verset 16, la parole de Dieu qui sort de la bouche de Jésus est une épée aiguë à deux tranchants. Dans Matthieu 4, versets 1 à 11, qui décrit la tentation de Jésus par Satan, la seule arme qu'il utilise contre Satan, c'est l'épée de l'esprit ou la parole de Dieu. Remarquez que ni Satan ni Jésus ne contestent l'autorité des Écritures. Dans Éphésiens 6, verset 17, Paul parle de l'épée de l'esprit qui est le rhéma, qui est la parole parlée, c'est-à-dire inspirée par le Saint-Esprit. Avec l'explication de ces versets, comme l'épée de l'esprit est une arme offensive, elle représente la proclamation de la parole de Dieu, la déclaration de la parole de Jésus par la bouche des chrétiens sous l'impulsion du Saint-Esprit. Il est important de comprendre que la proclamation de la parole de Dieu est une attaque offensive de Dieu contre le royaume de l'ennemi. Lorsque la parole de Dieu est déclarée et proclamée par notre bouche sous l'impulsion de l'Esprit pour détruire les œuvres du diable dans les lieux célestes, l'épée de Dieu est lancée par le Saint-Esprit à travers nous contre les forces mauvaises. Cela indique donc la coopération entre le croyant et le Saint-Esprit. Nous devons saisir l'épée car le Saint-Esprit ne le fera pas pour nous. Troisième partie, les armes offensives. Petit 1, passons à l'attaque. Il nous faut maintenant passer de l'armement défensif au matériel offensif et étudier les armes d'attaque nous permettant d'assaillir et de détruire les forteresses de Satan. Il est important pour nous de réaliser que nous sommes obligés, en fait, d'attaquer activement le royaume de Satan. En effet, aucune arme n'a jamais gagné la guerre en restant sur la défensive. Toute l'histoire de l'humanité en témoigne. Petit a, une armée qui avance. Retenez bien ceci. Dans une guerre, l'armée qui gagne est toujours celle qui avance. Or, tant que Satan maintient l'Église sur la défensive, son royaume ne sera jamais renversé. Dès lors, nous sommes dans l'obligation absolue de renoncer à notre position défensive pour prendre une position d'attaquant. C'est ce que Jésus voulait pour son Église. Dans Matthieu 16, verset 18, il est écrit: Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Le terme séjour des morts est traduit par Hadès, dont le sens étymologique est invisible, inaperçu. L'Hadès ou l'enfer est donc le monde invisible du royaume de Satan. Jésus parle de son Église à la lumière de deux activités primordiales qui vont ensemble et qui sont la construction et le combat. Nous devons constamment avoir à l'esprit le besoin de bâtir l'Église et de combattre les forces de Satan. De nombreux chrétiens ne le comprennent pas car ils ont la conception fausse d'une Église uniquement défensive dans le monde. Or Jésus montre une Église offensive qui attaque les portes de Satan. Il promet que ces portes ne soutiendront pas l'attaque de l'Église et que Satan ne saura pas la refouler. Ce n'est pas d'abord l'Église qui essaye de repousser Satan, c'est ce dernier qui essaye de refouler l'Église. Jésus nous promet que si nous lui obéissons comme à un commandant en chef, nous pourrons alors avancer, prendre d'assaut les citadelles de Satan, briser ses portes, libérer ses prisonniers et emporter son butin. C'est là la tâche de l'Église et c'est une tâche essentiellement offensive plutôt que défensive. Petit b contre le royaume de l'ennemi. Le mot porte a une grande signification dans l'Écriture. C'est le lieu de consultation et d'exercice d'autorité. Dans Hébreux 31, verset 23, son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. La porte de la ville était en effet le lieu où siégeait le conseil des anciens pour gouverner et administrer la ville. C'était le lieu de l'autorité de la ville. Ce qui explique que Mardochée se tient aux portes. Voir le livre d'Esther. Lorsque l'Écriture dit que les portes de Satan ne prévaudront pas contre l'Église, cela signifie que le gouvernement et l'autorité de Satan ne prévaudront pas contre elle et qu'ils échoueront et n'aboutiront à rien. Dans la Bible, l'image qui est présentée est celle de l'Église se lançant à l'assaut des portes de la citadelle de Satan. Les portes de sa citadelle ne pourront empêcher l'Église d'entrer. Il nous faut donc cesser de penser défensivement, mais offensivement. Hélas, beaucoup de chrétiens se demandent où le diable va encore frapper. C'est plutôt le diable qui devrait se demander où l'Église va frapper encore. C'est en fait ce qu'il se demande. Là où les chrétiens ont compris et sont devenus offensifs. Nous en voyons les résultats dans certaines parties du monde. Petit c, déjà battu par la victoire à la croix. Comprenons-nous vraiment qu'au travers de la croix, Dieu a désarmé le royaume de Satan et a triomphé de celui-ci. Colossiens 2, verset 15, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Un triomphe n'est pas tant une victoire, mais la célébration d'une victoire déjà remportée. Il s'agit donc de démontrer publiquement qu'elle a été remportée. Sur la croix, Jésus n'a pas remporté de victoire pour lui-même, il l'avait déjà. Jésus étant notre représentant, a remporté la victoire de notre part. Sa victoire devient donc notre victoire. 2 Corinthiens 2, verset 14 déclare: Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous devons donc toujours et en tout lieu proclamer la victoire de Christ. Dieu démontrera publiquement à travers nous la victoire remportée par Christ sur les principautés et les pouvoirs de Satan. Cette victoire s'effectuera à travers nous. Dans Matthieu 28, versets 18 et 19, Jésus s'approcha et leur dit: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples que tout pouvoir lui a déjà été donné et que dès lors, ses disciples devaient aller. Il voulait dire par là qu'ils devaient se mettre en route et exercer de la part de Jésus l'autorité qu'ils avaient déjà acquise. Notre tâche est d'imposer la victoire, de démontrer le triomphe et d'exercer l'autorité que Jésus a remportée pour nous. Or, l'autorité n'est efficace que si elle est exercée. Si nous n'exerçons pas l'autorité que Jésus nous a donnée, celle-ci reste inefficace. Le monde ne peut voir la victoire de Christ que si nous la démontrons. Exerces-tu l'autorité que Christ t'a donnée pour devenir efficace? Petit 2, les missiles du chrétien. Dans 2 Corinthiens 10, verset 4, Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. L'Écriture nous révèle quatre armes d'attaque principales que j'appelle des missiles. Ce sont la prière, la louange, la prédication, le témoignage. Petit a, la prière, l'arme la plus puissante qui provoque l'intervention des anges. Il s'agit de l'arme la plus puissante que Dieu nous a réservée selon Éphésiens 6, verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Comme pour un missile, la prière n'est ni limitée par l'espace ni par le temps. Un exemple de prière d'attaque nous est donné dans Actes 12, versets 1 à 10, lorsque les chrétiens prièrent ardemment pour la libération de Pierre. La réponse de Dieu à la prière de l'Église fut l'envoi d'un ange pour libérer Pierre. Jésus dit dans Luc 18, verset 7, Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Qu'il fera justice à ses élus qui crient vers lui le jour et la nuit. Une certaine intensité dans la prière est parfois nécessaire afin de provoquer l'intervention de Dieu. Examinons comment la prière fonctionne comme arme d'attaque dans une telle situation. Elle est entrée dans les lieux célestes et a provoqué l'intervention des anges. Ce fut la même chose pour Daniel dans Daniel 10. Il est essentiel de comprendre que les promesses de la parole de Dieu ne sont pas là comme substitut à la prière, mais justement pour provoquer notre prière. Daniel l'avait compris en lisant le parchemin de Jérémie et avait compris que les 70 années d'exil annoncées par Jérémie étaient terminées et qu'il fallait réclamer la promesse du retour en Israël. Ces prières sont nécessaires afin de rendre efficaces les promesses de Dieu dans notre esprit. Elles sont également nécessaires pour déclencher l'intervention d'anges en notre faveur. Les Écritures déclarent que les anges sont des esprits serviteurs. Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ils sont envoyés pour notre bien, mais en règle générale n'interviennent pas sans la prière, même si quelques-uns au minimum veillent sur nous. Veillent sur nous tous les jours. Pour ces chrétiens qui mènent un combat, la prière peut franchir le voile des ténèbres que Satan met au-dessus de nous et qui se trouve être son royaume. La prière provoque donc l'intervention des anges envoyés par Dieu, si nous demeurons toujours fermes dans la foi en ses promesses. La petit b, la louange comme arme pour faire taire Satan. Dans la Bible, la louange est souvent liée à la grandeur de Dieu et à la crainte qu'il inspire. La louange provoque son intervention surnaturelle parce qu'elle est une arme très puissante. Voir Exode 15, versets 10 et 11. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans l'eau profonde. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Le psaume 22, verset 24 dit: Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Dans Matthieu 11, verset 25, à ce moment-là, Jésus prit la parole et dit: Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Les enfants sont plus confiants et spontanés à l'égard de leurs parents, et ils savent se réjouir avec un cœur simple des bonnes choses que leur donnent leurs parents. Leur cœur répond plus spontanément à l'amour de leurs parents par l'affection et la louange. Le but de l'utilisation de la louange comme arme est de faire taire Satan. Cela s'accorde avec Apocalypse 12, verset 10. Puis j'entendais dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu, devant notre Dieu. Nous comprenons ici que l'activité première de Satan, et aussi son arme principale contre nous, est l'accusation, jour et nuit. Il nous faut le contrer aussi jour et nuit. Il veut par ses accusations nous culpabiliser. C'est son arme principale. Or, ce n'est pas à Dieu de faire taire Satan, mais à nous. Le moyen en question, c'est la louange qui monte dans les lieux célestes, qui atteint le trône de Dieu et fait taire les accusations de Satan contre nous. La louange qui fait taire Satan sort de la bouche du peuple de Dieu. Si nous lisons Apocalypse 16, versets 13 à 14, Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Nous voyons que les esprits sataniques agissent aussi par la bouche. Ces esprits impurs qui en sortent représente bien toute la propagande satanique de la fin des temps pour promouvoir les fausses idéologies et les dictateurs. Or, un des meilleurs moyens de contrer ces forces, c'est la louange qui sort du peuple de Dieu. Psaume 149, versets 6 à 9. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Ainsi, ils tireront vengeance des nations, ils puniront les peuples. Ils attacheront leur roi avec des chaînes et leur grand avec des entraves en fer. Ils accompliront contre eux le jugement qui est écrit. Quel honneur pour tous ces fidèles! Louez l'Éternel! Ici, la louange est accompagnée d'une épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu. Les deux doivent aller ensemble pour être parfaitement efficaces. L'autorité nous est donnée au moyen de la parole et de la louange, d'exécuter le jugement de Dieu sur les anges, les dominateurs et les rois, les peuples et les nations. Cela sous-entend une puissance et une autorité énormes. Petit c, la prédication comme arme efficace. La Bible a beaucoup de choses à dire sur l'efficacité de la parole de Dieu. Dans Ésaïe 55, verset 11, Dieu dit: Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Puis dans Hébreux 4, verset 12, Paul déclare: Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. La parole prêchée a une grande puissance. Elle ne restera pas sans fruit. C'est un marteau qui brisera toute pierre s'opposant à son plan. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche? De plus, le Seigneur confirme sa parole par des actes extraordinaires. Dans Actes 19, versets 8 à 12. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Le premier résultat de la prédication de Paul a été l'attestation surnaturelle de son message par des miracles, dont des guérisons. Le deuxième résultat a été les esprits méchants chassés. Dans Actes 19, versets 13 à 16, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient: Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit: Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ainsi le résultat a été l'effondrement de la domination occulte sur toute une ville. Acte 19, versets 17 à 19, cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom de Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Conclusion. Acte 19, verset 20. C'est ainsi que, par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. Car la prédication de la parole de Dieu chez Paul était sans réserve et sans compromis. Dans Acte 20, verset 20, vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons. Petit dé, une quatrième arme, le témoignage de la parole de Dieu et du sang de Jésus dans nos vies. La prédication est la proclamation directe de la parole de Dieu, alors que le témoignage, c'est d'être témoin, c'est parler de son expérience personnelle et comment cette expérience se rapporte à la parole et confirme la vérité. Dans Actes 1, verset 8, Jésus dit à ses disciples: Mais vous recevrez une puissance celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour être des témoins efficaces de Jésus, il faut premièrement une puissance surnaturelle. Notre témoignage est surnaturel. Autrement dit, ce n'est pas seulement ce que nous disons, mais toute notre vie qui doit témoigner de Jésus et de la vérité de l'Évangile. Dans Apocalypse 12, verset 11, le grand conflit entre les anges et les hommes est décrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Leur arme principale se trouve dans ce mot témoignage. C'est leur témoignage qui finira par abattre le royaume de Satan, car le témoignage est centré sur deux choses, la parole de Dieu et le sang de Jésus. Nous pouvons l'appliquer de façon simple à nous-mêmes. Nous vainquons Satan lorsque nous témoignons personnellement de ce que la parole de Dieu dit au sujet de ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Une des manières de témoigner de la parole et du sang est le fait de prendre le repas du Seigneur, la scène. Il s'agit du témoignage continu de notre foi dans la parole et le sang de Jésus. 1 Corinthiens 11, verset 26. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 5 choses importantes nous sont révélées dans la parole et qui nous sont données par le sang de Jésus. Premièrement, nous sommes rachetés. Éphésiens 1, verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Deuxièmement, nous sommes pardonnés. Troisièmement, nous sommes purifiés. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Quatrièmement, nous sommes justifiés, rendus justes. Romains 5, verset 9. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Cinquièmement, nous sommes sanctifiés, rendus saints. Hébreux 13, verset 12. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Ces choses ne deviennent pleinement efficaces dans nos vies que lorsque nous témoignons personnellement. Petit 3. Les cibles d'attaque de l'armée de Dieu contre l'ennemi. Il existe trois terrains de l'ennemi où le chrétien doit combattre pour vaincre le royaume des ténèbres. La chair, c'est le combat des chrétiens contre leur nature de péché, se révoltant en nous contre Dieu. L'esprit du monde, c'est le combat des chrétiens contre la mentalité corrompue de la culture mondaine des nations, contre l'atmosphère spirituelle du monde dont Satan en est le prince. Il est le prince de la puissance de l'air. Les démons et esprits mauvais, c'est le combat des chrétiens contre les esprits méchants et le diable en personne. Conclusion, pour être efficace dans le combat spirituel, il nous faut toujours aller à l'attaque avec les armes que Dieu nous a données. Nous sommes une armée de conquérants et les nations de la terre sont mûres pour qu'un peuple fasse leur conquête avec l'évangile du royaume. Fin du cours. Questions sur le cours. Première question. Où demeure le quartier général de Satan? Pourquoi n'est-il pas dans le troisième ciel sous le trône de Dieu? Expliquez-vous avec des versets bibliques. Deuxième question. Dans la guerre spirituelle contre les ténèbres, quels sont les trois terrains adverses que vous devez combattre? Expliquez-vous. Troisième question. Quelles sont les armes de l'armure du chrétien selon le cours? Expliquez-les avec des versets bibliques. Dans votre vie, quelles sont les armes de cette armure que vous utilisez le plus souvent? Donnez-moi des situations. Quatrième question. Quels sont les quatre missiles du chrétien selon le cours? Expliquez-les. Les avez-vous utilisés dans votre vie? Si oui, dans quelles circonstances?